Denis Charbit est en ligne avec nous à présent de Jérusalem. Bonsoir Denis.
Bonsoir Bernard.
Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université ouverte d'Israël, professeur de sciences politiques, historien du sionisme. Et je voudrais avoir votre point de vue, mais surtout votre éclairage sur les propositions de Donald Trump. Je pense que ça a été presque un mouvement de stupéfaction pour un certain nombre d'Israéliens et de Juifs à travers le monde, en voyant Donald Trump proposer un plan qui se termine, et même encore mieux, qui commence par une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui dit « Cette initiative pourra se terminer par la création d'un État palestinien ». Est-ce que, d'après vous, Donald Trump a fait un virage complet ou est-ce qu'on n'avait pas bien compris ce qu'il voulait auparavant ? Mais au Conseil de sécurité, c'est très haut. Et on parle d'un État palestinien et c'est les Américains qui le proposent. Et c'est Donald Trump qui le propose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, je disais votre point de vue et votre éclairage.
Alors, je commencerai par l'éclairage avant le point de vue, si tu me permets. L'éclairage. Avant de s'interroger sur Trump, sa versatilité, sa volatilité, son caractère imprévisible, chose qu'on a dit tout le temps depuis le début, regardons la situation. Il s'agit pour les pays arabes et musulmans qui participeront à cette force internationale et qui posent comme condition explicite ou implicite qu'ils ne pourront participer à cette force que si ce n'est pas une initiative américaine, mais si c'est une initiative onusienne. Voilà. C'est-à-dire, eux, ils ne veulent pas se retrouver dans une situation un peu comme au moment de la seconde guerre du Golfe, où les États-Unis ont dit, bah, puisqu'on n'a pas les Nations Unies, eh ben, on fait ça tout seul. Ils font très attention. Hein, l'image des États-Unis dans le monde arabe et dans le monde musulman, elle est toujours plutôt négative. Donc, ils posent comme condition, explicite ou implicite, nous, on veut que ce soit un mandat du Conseil de sécurité. Et là, j'ai envie de dire, avant d'ergoter, de gloser sur Trump qui change ou pas d'avis, et je vous le dirai bien sûr ensuite, Bernard, il est évident que aucun des pays du Conseil de sécurité, ni la Russie, ni la Chine, même la France et la Grande-Bretagne, et je parle là que des membres permanents, je ne rentre même pas dans les membres non permanents qui changent tous les 3 ou 4 ans, je crois.
Mais c'est parce qu'en plus, ils ont un droit de veto, donc vous avez raison.
Exactement, et qui ont un droit de veto.
S'ils veulent pas,
ils
disent
non. Pensez bien qu'ils ne vont pas, il est inconcevable, diplomatiquement parlant, qu'ils puissent consentir à donner un chèque en blanc aux États-Unis et à cette force internationale sans qu'ils aient la contrepartie diplomatique qui compte, à savoir que la mention de l'État palestinien figure dans le texte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, et c'est encore une fois l'éclairage, hein, il faut ni se réjouir, pour ceux qui sont favorables à la création d'un État palestinien, comme je le suis, ni se lamenter pour ceux qui s'opposent mordicus à la création d'un État palestinien. Sans cette mention-là, dont on verra plus tard si elle est symbolique ou fondamentale, le Conseil de sécurité n'aurait pas assumé cette résolution-là. Et de fait, Trump se retrouvait avec des pays, des États arabes et musulmans qui auraient dit « Ah, nous, dans ces conditions, on n'y va pas ». Donc, le fait que ça y soit, c'est, me semble-t-il, une logique diplomatique internationale, puisqu'on est à l'ONU, on n'est pas à l'OTAN, on n'est pas, le pacte de Varsovie n'existe plus, bon, voilà. Je crois que c'est une lecture, j'essaye de proposer ici, une lecture rationnelle et logique qui explique cette mention.
Alors, moi qui ne suis pas enseignant,
un
instant s'il vous plaît, moi qui ne suis pas enseignant, contrairement à vous, certainement pas professeur d'université, mais journaliste, ce qui m'a frappé, c'est le mot « peut-être ». J'ai dit « mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Comme on dit en hébreu, on dit « chacham ». Mais qui a eu cette idée de mettre Et c'est un processus qui se terminera peut-être par un État palestinien, ce qui fait que Netanyahou, il va voir le peuple, il dit bah peut-être ils peuvent croire ce qu'ils veulent, ça me gêne pas. L'Arabie saoudite, qui tient pas tant que ça d'ailleurs, va voir sa population et dit bon, on va y arriver, on espère, c'est notre choix. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le peut-être, Denis Charbit.
Qui me semble, de ce point de vue-là, la formule la plus réaliste. C'est-à-dire parce qu'elle tient compte de la sensibilité israélienne, il n'y a pas écrit, c'est sûr, et elle tient compte le fait que ce soit un texte assumé par le Conseil de sécurité. Je tiens à rappeler, la dernière fois qu'il y avait une résolution de ce genre, c'était votée par les États-Unis. Enfin, où ils se sont abstenus plus exactement, c'était à propos de la condamnation des implantations par Obama à la veille de son départ. Une fois qu'il avait terminé ses deux mandats, il a dit cette fois-ci, vous abstenez. Là, c'était les implantations, comme quoi elles sont illégales. Là, c'est l'État palestinien. Je n'ai pas besoin de vous expliquer aux auditeurs que pour les Israéliens, une grande partie israélienne, pas tous les Israéliens, la référence à un État palestinien, elle est ou idéologiquement ou pratiquement vécue comme un affront, comme un
C'est le chiffon
sacrilège.
rouge. C'est le
Alors,
chiffon rouge.
c'est le chiffon rouge, exactement. Alors, on mêle peut-être, parce que, on va dire, c'est pas parce qu'on a créé une force internationale qui va se poser à Gaza que l'État palestinien, il va émerger de lui-même. Mais c'est l'idée de dire, et ça, c'est très important, parce que ça explique énormément des relations parfois difficiles et tendues qu'il y a eu entre Israël et ses pays alliés, dont la France, l'Allemagne et d'autres. C'est-à-dire, nous, ce qu'on demande, c'est de voir le jour au bout. C'est quoi au bout? Quand on dit il y a un État palestinien au bout, on n'a pas dit combien de temps ça prendra, on n'a pas fixé de date, il n'y a pas dit l'État palestinien en 2027. Il y a écrit peut-être un État palestinien. Ça rassure tous ceux qui veulent voter pour, mais qui disent attention là, vous ne me faites pas voter un texte pour que ça se termine par la Riviera à Gaza. Voilà. C'est ça que, en fait, ça dit. Parce que là, je dirais, pour moi, la signification symbolique, parce que c'est un texte, c'est un mot, c'est une expression de ce texte, c'est que pour moi, elle balaye presque définitivement toutes les rêves et toutes les velléités de recoloniser Gaza. Gaza, ça appartient à l'État d'Israël. On va faire une Riviera, etc. Non, non, là, ça y est, on passe du principe de plaisir au principe de réalité. Alors, on n'est pas complètement dans le principe de réalité parce que ce n'est pas un impératif, mais on rappelle que tout ce qu'on fait maintenant s'inscrit dans une logique qui devrait, j'emploie le conditionnel, j'emploie pas le futur, qui
Alors,
devrait aboutir à la création d'un État palestinien.
vous voyez, moi, Denis Charbit, je vois ça totalement différemment de vous. Si j'étais palestinien ou, je sais pas, simple observateur quelque part, que sais-je, dans le monde arabe, en Syrie, je me dirais, c'est tout exactement le contraire de ce que vous venez de dire. À partir du moment où l'Arabie saoudite a dit, et ça se terminera peut-être avec un État palestinien, eh ben elle a définitivement enterré l'État palestinien. Parce que dire, bon, on va faire quelque chose, et peut-être il y aura un État, ça veut vraiment dire à quel point on n'en a plus rien à faire, à quel point on s'en lave les mains. Si moi, j'étais un intellectuel au Caire, voilà, un bel exemple, grande université, avec des intellectuels, des docteurs, je regarderais ça, je dirais, ben, on vient définitivement de mettre la signature sur l'Arabie saoudite se fout totalement de savoir si on a un État palestinien.
Alors, je vais te dire, on peut se retrouver sur la fameuse formule que tout le monde connaît, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit au début, il ne faut pas ni s'en réjouir, ni le déplorer, ni commencer à dire, ça y est, Trump nous trahit, etc., etc. Je pense que Trump nous montre quand même très clairement que America great again, ce n'est pas Israeli great again. Voilà. C'est-à-dire que les plans de Trump, c'est pas, il faut arrêter de penser. Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, c'est une très belle leçon de diplomatie internationale qu'on est en train de recevoir. Je n'ai pas dit une gifle, parce que moi, je n'ai jamais pensé que c'était une gifle que de déclarer l'État palestinien dans une résolution de l'ONU. Je ne considère pas ça. Le ciel ne tombe pas sur ma tête. Mais néanmoins, je dis, voilà, comprenez, arrêtez de penser que le monde entier, y compris notre allié le plus solide, le plus fidèle, Donald Trump, les États-Unis, etc., font leur politique. On l'a cru souvent, je dois dire moi-même, j'ai pensé longtemps que Trump finalement interrogeait Israël et ce que disait Israël, eh ben, il le faisait. Là, depuis un mois, on va dire, avec ce cessez-le-feu, mais donc précédé par le cessez-le-feu en Iran, hein, rappelons-nous déjà, au mois de juin, c'est pas Netanyahou qui dit on arrête les combats, c'est Trump qui lui dit ça y est, ça suffit, ça a donné. Je pense qu'on doucement, très lentement, beaucoup d'Israéliens, pas tous, il y en a qui n'ont pas adhéré à cela, mais beaucoup d'Israéliens vont commencer à comprendre qu'on ne dicte pas la politique internationale. On a des exigences, certaines sont justifiables, justifiées, d'autres ne le sont pas. La création d'un État palestinien demain matin, ça, c'est personne ne le réclame, effectivement, de ce point de vue-là, on peut être rassuré. De dire que cette revendication-là n'a aucun sens, c'est terminé, c'est enterré. Je pense que tu vas trop vite, de même manière que si je m'appuyais sur cette référence-là pour dire ça y est, l'État palestinien, il est pour tout de suite. Il rappelle quand même un consensus international dont ne fait pas partie Israël, effectivement, il ne s'inscrit pas dans ce consensus-là. Et on verra par la suite, c'est vrai que l'histoire est encore faite de beaucoup de rebondissements. Encore une fois, il faut ni se réjouir, ni se lamenter, il faut tenir compte que, et ça a toujours été notre problème, en Israël, presque tout gouvernement confondu, une victoire militaire, totale ou pas totale, ne suffit pas et n'a rarement été convertie en avantage politique, sauf une fois, 1973. La guerre du Kippour, avec les limites de son succès, et de son insuccès, à cause de la surprise du début, a permis à Sadat de venir en Israël et de signer le traité de paix, celui qui dure depuis longtemps, qui n'a jamais été bouleversé ni par l'intifada, ni par la Seconde Guerre du Liban, pas plus que par la guerre de Gaza.
Et les accords
Autrement,
d'Abraham non
on
plus.
est toujours très mauvais en Israël quand on pense que parce qu'on a gagné la guerre militaire, alors nous dictons la paix politique.
Bah,
Ça, c'est une
c'est le.
erreur dont on ne s'est pas encore réveillé.
Bah, c'est parce que ça, c'est la tradition populaire. Tu gagnes la guerre, bah, tu décides, tu as gagné. Mais tout le monde
Exactement,
dit
on
ça,
vit au 19e siècle.
c'est
De ce
la
point de
croyance de tout
vue-là,
le monde.
les
Vous avez, tu as
Israéliens
gagné,
vivent au
bah, tu
19e
décides ce
siècle.
que tu veux. Mais c'est pas la question que je. Mais j'entends très bien ce que
Pardon.
vous dites. Par contre, j'ai une autre remarque à vous faire sur quelque chose que vous n'avez pas mentionné, que vous savez mieux que moi, mais que vous n'avez pas mentionné, c'est la libération des otages, Denis Charvet. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais sur la place des otages, Kikar Hatoufim, la veille de Simchat Torah à Hoshana Rabba, quoi, en fait. Souvenez-vous, les hélicoptères qui sont passés sur la place, avec dedans les otages qui allaient à l'hôpital Ichilov, on regardait le ciel, on était. Mais on vivait un miracle debout, on oublie vite. Maintenant, ça y est, c'est passé comme ça. C'était miraculeux de voir. Ils allaient à l'hôpital, ils étaient dans un tunnel la veille. Mais je peux vous dire de nouveau en tant que journaliste, parce que c'est mon métier, je suis allé voir sur place ce que disaient les gens. Je ne suis pas un érudit. Bon, il n'y a pas une personne sur la place des otages qui ne disait pas c'est la victoire de Trump. Tout le monde était persuadé que c'est Trump qui a libéré les otages. Persuadé. Donc maintenant, quand il vient, bah, il est crédible. Il vient. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Trump?
Alors là-dessus, un mot. D'abord, avant que ce soit la victoire de Trump, c'est la victoire d'Israël et la victoire des Israéliens dont plus de la moitié d'entre eux disaient la libération des otages se fera par un accord, pas par une épreuve de force militaire. Et nous avons eu raison à toutes les étapes. Par la force, on a réussi à en libérer 4, 5, 6, pas plus. Tous ont été libérés par un accord. Il nous plaît pas, il réclamait trop de prisonniers politiques palestiniens. Là-dessus, on peut dire ce qu'on veut. Mais ce point de départ-là, qui a divisé la population israélienne, et même pas 50-50, là, pour le coup, la majorité disait il faut faire un accord. Et quand c'est Trump et pas Netanyahou qui l'a proposé et qui l'a imposé, même si Netanyahou est toujours très habile pour faire paraître comme si c'était lui qui en avait pris l'initiative, ce n'est pas vrai. La veille encore, il disait il faut conquérir Gaza. Et Trump a dit je vous libère les otages et vous conquérez pas Gaza. Ça n'enlève, enfin, je veux dire, bien sûr, ça explique
Bon, il y a la
pourquoi
pression
le
militaire quand
seul
même,
pays du
hein.
monde où
Mais
Trump est
même Trump, il
révéléré,
peut rien
c'est
sans les soldats,
Israël.
hein. Il y a la pression. Shalit, il est resté 3 ans là-bas. Il y a quand même la pression militaire aussi, hein.
bien, mais c'est un facteur, bien, j'ai pas dit, je n'ai pas dit que ce n'est que cela, mais au final, c'est quand même
Mais
un
c'est Trump.
accord. Voilà, la pression, bien sûr, elle joue, elle aide. Mais ça, pour ça, en janvier, on avait une deuxième étape qui était prévue, que Netanyahou a arrêté. On ne va pas refaire l'histoire, qu'importe. Les choses sont faites aujourd'hui, nous sommes rassurés, nous sommes tous heureux de toute la population israélienne, pour une fois, 100%, sans exception, est heureuse à peu près de cet accord, parce qu'ils sont libérés, sains et saufs, et
Très
ce n'était
heureux.
pas
Très, et
gagné,
tous d'un
et
coup.
qu'il ne reste encore que trois corps encore à restituer.
Très heureux.
Trump, effectivement, est aujourd'hui en capacité de faire la pluie et le beau temps. Si demain il a envie de dire non, non, mais attendez, moi, cet État palestinien, j'y crois pas, c'est rien du tout, etc. Bon, ben voilà, il aura refait un virage à droite, si je puis dire. Et puis s'il continue dans cette voie-là à multiplier les concessions, eh ben, peut-être que ça inspirera beaucoup d'Israéliens, pas tous. Mais une partie d'entre eux, l'idée que, bon, allez, on s'est fait plaisir pendant 20 ans, ça commence depuis 2014, en 2014 que Netanyahou interrompt les négociations avec les Palestiniens, et on se dit, allez, on va pouvoir vivre sans négocier quoi que ce soit, on n'a plus besoin de négocier. Eh bien, on apprend que 10 ans après, pardon, 12, 11 ans après, eh bien, ce n'est pas exactement comme ça. Peut-être que dans un an, 2 ans, on dira autre chose, on ne sait pas ce que nous réserve l'histoire, mais pour l'instant, la leçon qu'on en tire, c'est que oui, on est très fort, oui, on a une alliance avec les États-Unis qui est très solide, mais que au final, c'est quand même à la table de négociation qu'on finira par se retrouver, tôt ou tard. Et de ce point de vue-là, encore une fois, je dis, il ne faut pas s'émouvoir de ou déplorer ce qui s'est passé au Conseil de sécurité. On n'aurait pas pu autrement créer cette force internationale. Hein, tu aurais
International.
été ravi que cette force ne vienne pas, n'émerge pas pour qu'on reprenne la guerre. Eh ben, il faudra qu'ils attendent.
Denis Charbit à Jérusalem, merci pour ces explications. Vous qui êtes professeur à l'Université ouverte d'Israël, professeur de sciences politiques, et je profite toujours pour rappeler vos livres de référence sur le sionisme notamment, sur le Proche-Orient, sur l'histoire du sionisme.
Est-ce
Merci
que je peux
Denis
rappeler le
Charbit.
dernier qui est paru il y a 3 semaines sur Yitzhak Rabin? Non, non, mais je vous l'enverrai. La paix assassinée, la mémoire fragmentée aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà. Je me permets un petit coup de pute.
Denis Charbit, vous êtes déjà, j'ai pas lu une ligne, pas lu une ligne, mais je sais que ce sera passionnant. Vous êtes déjà mon invité pour parler de votre futur livre. Nous en parlons dans les jours qui viennent. Je vous invite publiquement et en direct. Avec
Merci
plaisir.
Bernard.
Denis
Bonne
Charbit,
soirée à vous tous. Bonne soirée à tous. Au
bonsoir à
revoir.
vous.